En 2015, pour les 20 ans du parc, une autre vie s'invente ici.
Portrait d'acteurs du territoire.
Les Terrecuites de Rojol ont récemment fait la couverture de CS Interiors, un des plus prestigieux magazines de décoration américains. Pour ce premier portrait de notre série, nous sommes allés à la rencontre de Patrice Rivière, des Terrecuites de Rojol. Patrice Rivière, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Terrecuites de Rojol, située sur la commune de Creissel, au lieu dit Rojol. Quel est votre statut ? Êtes-vous le gérant de l'entreprise ?
Oui, je suis gérant majoritaire. J'ai repris l'entreprise dans les années 2000 et je suis gérant majoritaire de la société Terrecuites de Rojol.
Alors, les Terrecuites de Rojol, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1830. Étiez-vous prédestiné à reprendre les rênes de l'entreprise ou est-ce un enchaînement de circonstances qui ont fait que vous vous retrouvez à la tête de cette entreprise aujourd'hui ?
Je crois que j'étais prédestiné. Bon, j'ai un frère qui a choisi le côté artistique, qui n'est pas dans la société aujourd'hui. Et c'est vrai que tout petit, déjà, je jouais à la carrière, je m'amusais à faire des vases avec de l'argile, en imitant un petit peu les Romains comme la Grofezenc. Et j'ai baigné dedans, quoi, toute ma jeunesse.
À l'époque où votre entreprise a été créée, dans la première moitié du 19e siècle, il existait de nombreuses tuileries et briqueteries dans la région. En se promenant, on peut d'ailleurs en voir les vestiges à différents endroits. Comment expliquez-vous que beaucoup de ces fabriques ont disparu et que la vôtre a réussi à perdurer ?
Mais il est vrai que dans le secteur de Millau, déjà à Creissel, il y avait deux briqueteries. Il y en avait une à Millau à côté de l'International Hotel. Il y en avait une à Boyne. Il y en avait deux dans la descente de Sainte-Afrique. Et c'est vrai qu'à l'époque, les fabriques se trouvaient à côté des villes, enfin des villages, parce qu'on ne pouvait pas transporter en fait la matière. Donc il fallait toujours être proche de la construction. Et en 1974, choc pétrolier, le pétrole est devenu tellement cher que la cuisson des briques ou des tuiles coûtait plus cher que la marchandise qu'il y avait à l'intérieur du four. Donc ça fait que toutes les entreprises, 95% ont fermé les portes. Et il y en a peut-être une cinquantaine en France qui ont pu survivre, enfin des tailles comme la nôtre. Hein. Et ce sont des gens qui ont pu se lancer dans d'autres secteurs plus innovants. Et mon père, lui, a choisi à cette époque-là, en 1974, le secteur de la décoration. Il s'est déplacé, il a été à Paris, il a rencontré des architectes et il a pu vendre l'argile beaucoup plus cher que ce qu'il a vendu quand il fabriquait des briques. C'est-à-dire qu'un kilo d'argile transformé en briques, le bénéfice dessus était inexistant, mais un kilo d'argile transformé en décoration, en produit tendance, pouvait se vendre au prix que l'on voulait, quoi.
Donc c'est vraiment le surcoût énergétique qui a fait que l'entreprise a dû réorienter ses activités. Et c'est peut-être un petit peu le coup de génie de votre papa, donc d'avoir su prendre le virage au bon moment.
Oui, tout à fait, il a eu un coup de génie, parce qu'à un moment donné, quand même, il s'est posé la question, est-ce que j'arrête ou je continue ? Parce que l'argent ne rentrait pas. Et il a persisté, et en fait, le résultat, aujourd'hui, on le connaît. Donc il a bien fait, et puis... Au-delà de mon père, c'était mon grand-père qui a été aussi un précurseur parce qu'à l'époque, il avait construit cette usine à Rojol. Bon, c'est vrai que quand on passe sur la route de Millau-Sainte-Afrique, on voit un bâtiment, mais on ne voit pas la surface exactement parce que c'est caché. C'est quand même une entreprise qui fait 4000 m², un hangar qui fait 100 mètres de long. À l'époque, il a construit en 1946 cet hangar de 100 mètres de long et d'une largeur d'à peu près 40 mètres. Et ensuite, il a fait des hangars attenants. Mais il a eu l'idée de faire un hangar très haut. À cette époque, toutes les briqueteries, c'était des hangars très bas pour sécher les produits. C'était pratique, et puis ils avaient besoin de la hauteur. Seulement, à l'époque de la mécanisation, dans les années 60, sont apparus les élévateurs motorisés. Et dès que les élévateurs, je sais que le premier qu'il a acheté, c'était dans les années 61-62, il a acheté son premier Manitou, ce qui a permis de limiter le personnel, hein, d'accélérer le mouvement de l'entreprise. Et cet élévateur a pu se déplacer dans l'entreprise, il n'y avait pas de problème de hauteur. Et toutes les entreprises et les briqueteries, la plupart en France, c'était des toits très bas. Et donc, à l'époque de la mécanisation, ils n'ont pas pu acheter d'élévateur et aller de l'avant. À l'époque, mon grand-père, il avait donc un Manitou et il chargeait les camions, donc à Rojol, de briques, de tuiles. Et parce qu'à l'époque, le marché était sur Montpellier-Béziers. Et les marchands de matériaux à Béziers et Montpellier n'avaient même pas d'élévateur pour décharger. Donc c'était quelqu'un déjà de très innovant, qui avait compris un petit peu le système de production. Et donc voilà, si l'usine, nous on dit l'usine parce que c'est resté comme ça dans la famille, mais si l'entreprise avait été avec un toit bas, aujourd'hui on ne serait pas là, c'est certain.
Donc il y a eu un effet d'intuition un peu de la part de votre grand-père d'anticiper cette transformation. Et vous avez parlé d'usine, mais c'est peut-être de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire le passage d'une activité simplement artisanale à quelque chose de pré-industriel ou industriel même carrément.
Oui, c'est vrai que mon grand-père à l'époque, Aurélien Rivière, avait un mot en bouche, c'était la mécanisation, c'était la mécanique, c'était donc ça y plaisait. Et il a réfléchi à améliorer le système de production. Déjà à l'époque, c'était un innovateur parce que c'est une usine de production linéaire, c'est-à-dire que vous avez la carrière située aux pentes du Larzac et 100 mètres plus, donc la carrière, concassage, fabrication, séchage, cuisson, expédition. Il avait compris déjà le système un peu à la mode de Chrysler aux États-Unis de la production linéaire. Et on utilise toujours ce même système de production linéaire qui est très compétitif et qui est adapté, qui est super. Voilà.
Ce type de production en linéaire, justement, il n'existait pas sur les autres sites du Sud Aveyron, c'est-à-dire la proximité de la carrière, par exemple. Est-ce que c'est un point fort de votre entreprise ?
Si, la plupart des briqueteries, quand même, avaient les carrières au pied de l'entreprise. Parce que, mon grand-père a commencé avec un âne, des wagonnets, on avait des rails, une voie de chemin de fer qui était la carrière à l'époque, qui se trouvait à 300 mètres. Et voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est toujours pareil. Ceux qui vont de l'avant, qui ont de la vision, il a construit un grand hangar. Ça a permis, aujourd'hui j'utilise toujours cet hangar, j'ai multiplié par 3-4. Mais on avait la capacité à prendre des marchés plus gros, aller de l'avant. Et ceux qui sont restés dans des petites structures, n'ont pas pu se développer. C'est comme dans tous les secteurs. Hein.
La carrière à proximité, donc sur les pentes du Larzac, la matière première, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'elle est uniforme ou est-ce qu'il y a de la diversité dans cette matière première ?
Cette matière première, c'est une longue histoire, étant donné que il y a 2000 ans, les Romains étaient déjà là, la Grosfezenque, dont nous, en fait, on n'est que les successeurs de ces 500 potiers gallo-romains qui faisaient toute l'argile pour l'armée romaine. Et donc on utilise les mêmes bandes d'argile, parce qu'en creusant, on retrouve des vestiges romains, on retrouve des tégulas, on retrouve de la poterie, des fours romains. On utilise la même argile. C'est une argile qui cuit rouge, mais c'est un schiste au départ, un schiste bitumineux, qui est de couleur gris. On le voit quand on prend la côte de la cavalerie, sur la droite, vous en avez aussi, ou on en trouve à Boyne aussi, ou à Montain-Roquefort. Donc on en trouve un peu partout dans la région. Et cette argile, elle a une caractéristique, c'est-à-dire une caractéristique d'être une argile assez... les Romains l'utilisaient très fine, mais nous on l'utilise grossière, et ça permet d'avoir des produits plus... avec un aspect artisanal. Et on peut se différencier par rapport à nos concurrents qui utilisent des argiles qui viennent des carrières industrielles et qui sont des argiles beaucoup plus filtrées, donc fines et sans... Au toucher, vous ne retrouvez pas... qui sont beaucoup plus lisses, voilà. Donc on se démarque. De toute façon, on est condamné à avoir cette argile, puisque notre carrière est ainsi à Rojolles. Et donc, il faut se trouver le moyen de la transformer soit en faïence, soit en briques, soit en décoration. Mais je veux dire, aujourd'hui, Terre Cuite de Rojolles exporte 50% de sa production à l'étranger. Donc, nos gros clients se trouvent, nous, au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Émirats. Ensuite, États-Unis. On travaille beaucoup sur la côte est des États-Unis, la côte ouest aussi. Et on expédie en principe tous les 15 jours, on expédie plusieurs palettes sur New York. À l'époque, bon, c'est vrai qu'il y avait des pays qui étaient ciblés, mais aujourd'hui, il y avait les pays émergents, comme ce matin, je viens de recevoir une commande pour la Chine, à Hong Kong, pour richissime. Et l'an dernier, on a fait un hôtel 5 étoiles à Rio de Janeiro. On a travaillé au Mexique, alors que le Mexique et le Brésil sont les premiers producteurs de céramique au monde. Comme quoi, il n'y a pas de règles. Il y a toujours un client quelque part. Voilà.
Une autre vie s'invente ici.
Portrait d'acteur du parc naturel régional des Grands Causses.
Pour revenir à cette histoire de matière première, c'est le grain qui se trouve un petit peu dans la matière première qui va faire la valeur esthétique du produit fini d'une certaine manière. Alors c'est peut-être un petit peu la différence avec les poteries gallo-romaines, parce que les poteries sigillées, elles étaient très fines, très, très lisses, mais il y avait un rayonnement très très important dans tout l'Empire. Et vous avez dépassé ce rayonnement, puisque c'est le monde entier, l'Amérique du Nord, du Sud, la péninsule arabique, vous l'avez dit, la Chine, bon, évidemment beaucoup l'Europe. Comment est-ce que ça s'est fait, ce passage justement d'une production locale à une commercialisation internationale ?
Chaque époque, dans sa vie, a son système de commercialisation. Mon grand-père, lui, c'était Béziers-Montpellier. Mon père, c'était Paris, enfin la France. Et moi, en 1994, si j'ai bon souvenir, je suis parti la première fois à Dubaï. J'avais entendu parler qu'aux Émirats, enfin, on ne connaissait pas à l'époque les Émirats, hein, et qu'il y avait de l'argent, du pétrole. J'ai pris l'avion, j'ai pris ma valise, je suis parti là-bas. J'y suis retourné pendant 10 ans. J'ai fait des affaires. Et j'ai rencontré des architectes. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, on fait des palais de 14 mm², 1 hectare et demi. On fait des villas, enfin bon, des choses enfin, pour nous qui sont au niveau de la production des projets extraordinaires, hein, pour des émirs ou autres. Chacun utilise ses systèmes de communication. Moi, je suis, bon, même si j'ai 49 ans bientôt, j'ai toujours été un communicant, que ce soit sous les revues de décoration à l'époque. J'étais annonceur sur 4-5 revues de décoration en France, les plus prestigieuses, à l'étranger aussi. Et aujourd'hui, bon, la presse papier a tendance à faiblir, hein, au niveau des ventes. Et donc, on s'est mis sur Internet déjà en 1999-2000. On a lancé notre premier site Internet, qui était un site vitrine. Ensuite, on a fait un site de vente en ligne. Et aujourd'hui, on est à notre second site de vente en ligne. Et je pense que d'ici un an, on sera à notre troisième site de vente en ligne. Aujourd'hui, la vente en ligne représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. On vend sur toute l'Europe. Directement, c'est-à-dire que le client qui se trouve en Norvège, qui se trouve en Grèce, qui se trouve en Pologne ou en Italie ou en Espagne, va sur notre site internet, choisit les faïences. En plus, sur notre site internet, on a un système de composition pour harmoniser les faïences par couleur. Enfin, on peut faire ses projets soi-même, c'est un simulateur. On est les seuls à faire ça en France actuellement. Et donc, le client qui se trouve dans un pays étranger passe sa commande. Par rapport à son pays, à son département, à sa région, et par rapport à la surface qu'il a commandée, le poids du transport va se calculer en fonction du département, comme je disais, et un prix va être affiché. Donc il fait sa carte bleue, son virement, son chèque, mais la plupart du temps, 95%, c'est des cartes bleues. Et c'est comme ça qu'on vend dans toute l'Europe, aussi bien en Roumanie, où on pense que bon, on ne vendrait pas, on vend en Roumanie, même en Grèce si c'est la crise, partout. Il n'y a pas de règle.
Et pourquoi trois sites de vente différents ?
C'est pas trois sites, c'est-à-dire que je suis à mon troisième site internet. C'est-à-dire que bon, il y a tellement une évolution au niveau de l'internet. Déjà, mon site là, on fait des améliorations tout le temps. Ça y est, je suis dans ma tête, je suis parti pour en créer un autre parce que je sens qu'il est dépassé et qu'il faut aller de l'avant, il faut toujours être les premiers. Aujourd'hui, je suis, enfin, Terrecul de Rojol est le premier à vendre dans notre secteur en Europe ce style de produit et on veut garder leadership pour toujours être en avance, quoi, voilà.
La commercialisation, le marketing, mais vous l'avez dit aussi, les relations que vous avez pu établir avec des donneurs d'ordre, donc dans le cas des architectes, par exemple. À quel moment est-ce que s'est faite la bascule ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que vous présentiez une carte de visite. Ça a été quoi, votre carte de visite ?
Donc, je vous disais tout à l'heure, le premier voyage a été aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Donc, j'ai toujours aimé voyager aussi, hein. Donc ensuite, je suis parti aux États-Unis et je suis allé de nombreuses fois aux États-Unis. Et on a fait un salon, le salon du revêtement à Chicago. Et à partir de là, à partir de ce salon, bon, c'était un salon très important mondialement. Nous, on était, je veux dire, une puce par rapport à tous nos concurrents. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, pour être crédible, tu vas faire un stand aussi grand que la concurrence. Donc j'ai investi beaucoup d'argent. Et le retour a été immédiat, c'est-à-dire que bon, les gens ne se sont pas posé la question. À Chicago, si Terrecul de Rojol était une petite entreprise familiale au fin fond de l'Aveyron. Et ils nous ont fait confiance. Et en rentrant de Chicago, une semaine après, il y avait déjà une commande de 100 000 euros qui est tombée dans Terrecul de Rojol. Donc tout ça, ça nous a motivés. Et aujourd'hui, on a 40 magasins aux États-Unis qui nous représentent, qui ne sont pas nos propres, mais qui représentent nos produits. Et on travaille avec des architectes, beaucoup d'architectes à Londres aussi, qui travaillent au Moyen-Orient. On travaille pour des stars aux États-Unis, à Hollywood, en France aussi. Enfin, voilà, un peu pour le showbiz. Pour tout le monde, hein, je veux dire, on a pour les Aveyronnais, pour les Miawas. L'Aveyron est déjà pas mal recouvert avec Terrecul de Rojol.
Vous êtes intervenu à de nombreuses reprises d'ailleurs sur des monuments historiques, en France notamment, bon, la Maison Carrée à Nîmes ou le Louvre. Ça s'est produit à quel moment ça dans l'histoire de l'entreprise ?
Alors la Maison Carrée c'était en 1990, le Louvre c'était en 92. Bon, ça a été des très gros chantiers au niveau réalisation et aussi au niveau prestige. Et ensuite, donc, bon, ça a permis de consolider la carte de visite Terrecul de Rojol au niveau de la réalisation des monuments historiques. Et ensuite, nous avons fait le château de Castries à côté de Montpellier et bien d'autres chantiers monuments historiques. Et actuellement, nous sommes en train de faire le sol des Invalides à Paris.
Donc ça, le sol des Invalides, c'est une grande surface, non ?
Oui, à peu près 2000 mètres carrés de carreaux 50-50 cm par 4 cm d'épaisseur, entièrement fait la même. Oui, c'est un chantier sur 3 ans, quelque chose d'assez important.
On imagine bien que la production, bah, elle a augmenté dans des proportions importantes. Est-ce que la carrière, elle suffit encore à fournir la matière première ?
Oui, mais la carrière, on arrive toujours à extraire de l'argile. Bon, c'est vrai qu'on avait fait des provisions il y a quelques années. Nous avions des terrains autour de la briqueterie où c'est que nous avons extrait et nous avons à peu près 20 000 tonnes stockées sur notre site des Terrecul de Rojol. Et aujourd'hui, on a tendance plutôt à moins fabriquer qu'auparavant, mais à fabriquer des produits plus spécifiques, avec une valeur ajoutée plus importante. De toute façon, bon, nous sommes plutôt orientés vers des produits à forte valeur ajoutée. Donc, moins de consommation d'argile, moins de consommation d'énergie et plus de rentabilité. De toute façon, on ne peut pas concurrencer contre la grosse industrie. Donc voilà notre démarche. Par rapport aux années 70, on doit consommer, je pense, trois fois moins d'argile. Par rapport aux années 2000, on doit consommer la moitié. C'est-à-dire on fait à peu près, je pense, 800 tonnes de faïence et de carrelage par an. quoi.
Une autre vie s'invente ici.
Portrait d'acteur du parc naturel régional des Grands Causses.
Au niveau de l'entreprise Terre Cuite de Rojol, ça représente combien de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, sur site et hors site?
En fait, tout le personnel est condensé au Terre Cuite de Rojol, hein, au lieu de production et au magasin. Donc on est à peu près 8 personnes, dont une décoratrice qui vient à mi-temps, hein. Dernièrement, au mois de juin dernier, on a recruté un ingénieur qualité pour me seconder un petit peu et pour faire la transition entre moi et mon fils plus tard. Parce qu'aujourd'hui, bon, on est amené à faire donc, des produits très spécifiques qui sont vendus cher, donc il faut une qualité extrême. Et on est obligé de bien jouer sur la qualité, donc voilà pourquoi cette embauche. Aujourd'hui, c'est vrai que le carnet de commandes, bon, l'hiver, c'est toujours un peu plus calme, mais là, bon, on est déjà, le carnet est bien rempli. Et je pense qu'en continuant sur cette optique de qualité, d'international, je pense que dans l'avenir, on peut recruter. Mais à petite dose, parce que je veux rester une entreprise artisanale, avoir le plaisir de faire des fabrications exceptionnelles. Et pour pérenniser, de toute façon, il faut rester toujours petit. Parce que quand on voit trop grand, le jour où il y a une baisse d'activité, eh bien, le problème arrive.
Et sur le marché international, donc, on imagine que vous avez à faire face à de la concurrence. Est-ce que la concurrence, ce sont des entreprises de même taille que la vôtre? Ou est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que vous connaissez bien vos concurrents?
Non, c'est pas des entreprises comme la mienne. La concurrence, c'est pas mes confrères. C'est paradoxalement, ça peut être les autres matériaux, c'est-à-dire le bois, la pierre, les matériaux synthétiques. Aujourd'hui, la décoration n'a rien à voir avec la décoration des années 80. À l'époque, un client venait, prenait des faïences pour faire toute la salle de bain, du sol au plafond. Aujourd'hui, c'est fini. Il va prendre peut-être 2-3 mètres carrés de faïence, il va compléter avec du bois, il va faire un mur à la chaux. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, la concurrence, c'est les autres matériaux. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, la décoration, c'est un mix de plusieurs produits mélangés. Et donc, moi, je pense que par le biais d'Internet, on touche beaucoup plus de gens, par le biais aussi des salons à l'international, ce qui permet de se démarquer et on va toucher plus de monde. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est qu'on vend moins de produits, enfin de surface à un client. Les surfaces sont plus petites, mais on va vendre plus de clients. Le but, voilà, c'est ça, c'est d'avoir plus de clients, mais on va leur vendre moins de quantité, voilà, en surface, en mètre carré.
En termes de commercialisation, on pourrait se dire que vous êtes arrivé au top, mais est-ce qu'il y a des perspectives de développement et comment est-ce que vous voyez, vous entrevoyez plutôt l'avenir de l'entreprise?
Oui, bien sûr, il y a des perspectives de développement. Bon, déjà par le biais d'Internet, bon, on le voit tous les jours, on a des commandes en ligne au niveau européen, français. Et des demandes internationales, c'est vrai, tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines de l'étranger. Et donc, bon, moi, je me déplace, je vais aux États-Unis, je vais à Londres. Là, on est en train de pencher sur le futur, afin d'aller faire le salon du Cerzai en Italie, qui est le salon mondial du carrelage. Et bien entendu, bon, moi, j'ai mon fils qui est en école de commerce, qui a bientôt 20 ans et qui a envie de prendre la succession. Donc voilà, j'ai dit, bon, moi, il y a des conditions pour que tu rentres en entreprise. C'est déjà partir à l'étranger, apprendre la langue, faire du commerce, après ton école pendant 1 ou 2 ans, et après tu viens au Terre Cuite de Rojol, je te forme au métier. Mais bien entendu, c'est que ton travail, tes ventes se passeront hors des frontières françaises demain. Étant donné qu'aujourd'hui, on est déjà à 50% de nos ventes à l'export, à l'international, demain, en plus, avec la baisse de l'euro, actuellement, on le sent vraiment aux États-Unis, il y a une grosse demande.
La question de la succession, c'est celle que j'allais vous poser, mais vous avez précédé donc ma question, vous y avez répondu en partie. Vous dites à votre fils d'abord de se consacrer à la commercialisation, et l'aspect technique du métier, ça vient de manière secondaire ou c'est complémentaire?
Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut les deux compétences. Parce que bon, il faut pouvoir aller vendre les produits à l'étranger, connaître le système de commercialisation, parler l'anglais ou l'espagnol couramment. Ça, donc, c'est à l'école. Il peut l'apprendre que maintenant. Et ensuite, il viendra au Tercu de Rojol, et là, je prendrai le temps de le former. Bien entendu, ça prendra du temps, mais moi, j'ai acquis le savoir de mon père, qu'il a acquis de son père, et mon grand-père l'a acquis de son grand-père, ainsi de suite. Donc, il y a un savoir. Bon, déjà, l'été, quand il vient travailler au mois de juillet, on le forme un petit peu. Cette année, il a fabriqué des carreaux pour les invalides. Ça lui plaît. Bon, il aime la matière. Mais aujourd'hui, une entreprise doit être performante dans sa commercialisation, savoir vendre son produit. Voilà, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, bon, nous, on a une connotation, c'est vrai, bon, surtout à l'Aveyron, on dit, oui, Tercu de Rojol, c'est beau, mais c'est cher. Eh bien, tant mieux. On préfère rester sur ce créneau que dire le contraire. Voilà, il vaut mieux élever le produit que parler comme un produit basique.
Votre fils, il est quand même déjà en partie dans l'entreprise, puisqu'il vient de temps en temps. Peut-être que, comme vous d'ailleurs, enfant, il a joué dans la carrière, non ?
Ah oui, il a joué dans la carrière. Bon, j'ai deux garçons, hein, donc probablement il y en a un qui est intéressé, le second, on verra. Mais oui, bien sûr, ils aiment Rojol, ils aiment l'Aveyron. Il me dit, papa, mais plus tard, je veux reprendre l'entreprise, mais... Parce que moi, je lui dis, mais sûrement, il faudra que tu passes des semaines à New York, voir les clients. Mais moi, je ne veux pas vivre à New York, je veux vivre à Rojol. Je lui dis, tu verras, de toute façon, tu reviendras. Mais il est vraiment amoureux de Rojol, de Creissel, de son département, de l'Aveyron. Voilà.
Très bien, la relève est assurée. Merci beaucoup, Patrice Rivière.
Merci et bonne journée.
C'était Patrice Rivière, gérant des terres cuites de Rojol, dans Une autre vie s'invente ici, consacrée aux acteurs du territoire du parc naturel régional des Grands Causses. Une série de portraits réalisés par Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique à l'occasion des 20 ans du parc.
Plus de mille et mille tours par jour sur ton vieux tour. Et tes mains ne sont-elles pas usées jusqu'à l'os? À t'en tourner, pétrir, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés. Les astres tournent dans l'univers et moi je suis là. Sur le globe à faire sans répit, tourner mon vieux tour. Et le monde tourne dans ses rayons, et le monde fait l'amour. Et mes pieds et mes mains s'en vont et viennent à l'unisson. Et je tourne et tourne pour faire naître en chantant de la terre les formes vivantes et toujours si nouvelles de la vie. Ah mon ami potier, tu me parais plus joyeux que toujours. À t'en tourner. Plus de mille et mille tours par jour sur ton vieux tour. Et tes mains sont plus belles et plus fines que jamais. À t'en tourner, pétrir, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés. Frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés.